Merci Daniel pour cette intro encourageante et apaisante. Il y a un mois ici, je ne sais pas si vous vous en souvenez, si pas, vous allez voir sur le site, merci Guy, je faisais un partage sur le thème de la désobéissance civile. Vous vous souvenez maintenant? Vous irez voir. Sur la désobéissance aux autorités suivant le texte de Exode, oui, Exode. Effectivement, Exode 1. Qui nous rapporte la venue d'un nouveau pharaon qui va écraser le peuple d'Israël et qui demeure dans le pays depuis plus de 300 ans. 300 ans, j'avais marqué 400. On est à la naissance de Moïse, donc Moïse va avoir 80 ans quand il sortira le peuple qui aura vécu 400 ans. Donc, ça fait 320 ans. Bon, ceci dit, c'était pour un peu détendre un peu l'atmosphère et me détendre un peu parfois. Donc, suite aux péripéties que est amené, Joseph est arrivé en Égypte et puis Moïse va sauver le peuple. Mais rappelez-vous, le pharaon dictateur qui voulait limiter les naissances a essayé de perturber les sages-femmes qui ne plièrent pas par leur crainte de l'Éternel. Et je vous propose simplement de poursuivre le récit. Exode 1, Exode chapitre 1, verset 21. Exode 1, verset 21, et nous lirons jusque chapitre 2, verset 10. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Chapitre 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait et elle eut pitié et elle dit « C'est un enfant des Hébreux ». Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, « Je l'ai retiré des eaux. » Une deuxième lecture, dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, chapitre 7, acte 7, verset 17. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi, qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vivent pas. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. C'était un extrait du discours d'Étienne. Et juste un dernier verset dans l'Épître aux Hébreux, Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 23, Hébreux 11, 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Jusqu'ici, lecture. Seigneur, encore une fois, nous nous mettons devant toi et devant ta parole pour découvrir le message que tu as à nous transmettre aujourd'hui. Seigneur, encore une fois, merci. Merci pour tout ce que tu nous accordes et merci encore de ne pas être silencieux en ces temps difficiles. au nom de Jésus. Amen. J'ai relu les deux derniers versets du premier chapitre d'Exode, d'abord pour faire le lien avec notre précédent partage sur le texte et pour montrer que la haine du Pharaon envers le peuple d'Israël est montrée au plus haut point. Il est arrivé à commettre des meurtres. Le meurtre. L'orgueil a poussé le roi d'Égypte à aller jusqu'à tuer des innocents. Et là encore, il y a discrimination. Il fait éliminer les garçons et pas les filles. Chose étonnante, il les fait jeter dans le fleuve. Le fleuve d'Égypte, vous savez, important. Et juste ici, pour quelques infos, avec ses 6700 kilomètres, c'est avec le fleuve Amazon le plus grand fleuve du monde. Le Nil a aussi une dimension spirituelle pour l'Égypte. Il signifiait tant dans la vie des Égyptiens qu'ils ont créé un dieu consacré au bien-être, apporté par l'inondation annuelle du Nil. Si vous allez voir des livres, le Nil déborde et donne une terre noire qui donne de très bons résultats au niveau des cultures. Et le nom que les Égyptiens ont donné à ce dieu, Api, est autant lui, donc ce dieu, peut jouer sur les crues du Nil autant que le pharaon. Donc ils ont tous la même dextérité pour dire, voilà, c'est la crue ou pas. C'est ce qu'ils disent eux. Et le Nil était considéré de la naissance à la mort comme un passage obligé. Et ce que j'ai appris, c'est que l'Est était occupé par les vivants, le côté Est du Nil occupé par les vivants, et le côté Ouest occupé par les tombeaux. Donc on passait de la mort à la vie par le Nil. J'ai appris ça. Et que toutes les pyramides sont du côté Ouest. Avec ça, on est bien. Hein? Jusque-là, c'était juste pour montrer l'importance de ce fleuve qui donne la vie et qui a été utilisé par un homme sans Dieu deviendra une arme de mort. De plus, Pharaon ne va pas s'arrêter à rendre esclave le peuple d'Israël, il essaiera de saper sa descendance en tuant des petits-enfants sans défense. Cela nous rappelle évidemment la naissance de Jésus avec le massacre qu'Hérode a perpétré. On penserait que toutes ces barbaries d'un autre temps, et pourtant, il y a quelques jours, des images de maternité et de crèche étaient bombardées. Je ne sais pas si vous avez vu cette image avec toutes les poussettes. Atroce. Ce n'est qu'à 2000 km de chez nous. Rien n'a vraiment changé dans ce monde sans Dieu, sans le Dieu de Jacob. Mais dans notre récit, un événement va faire basculer l'histoire de l'Égypte. Un homme et une femme vont tout naturellement donner naissance à un fils. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Mais comme l'a exigé le pharaon, il faut le jeter dans le Nil, puisque c'est un garçon. Mais sa maman va désobéir. Encore une qui va faire de la désobéissance civile. Dans notre précédent partage, souvenez-vous, c'était les sages-femmes qui s'opposèrent à la loi du pharaon. Mais tout compte fait, définitivement, ce peuple d'Israël, c'est quand même des rebelles. Désobéissance civile. Enfin, pour l'instant, c'est pour la bonne cause. Nous verrons que ce ne sera pas toujours pour la bonne cause. Mais ça, ce sera pour un autre épisode. Mais revenons à notre maman, opposante au régime de Pharaon, qui va cacher son fils pendant 3 mois, nous dit le texte. L'auteur du récit ne nous donne pas de détails. On les trouve un peu dans les autres lectures des Actes et dans la lettre aux Hébreux. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Il y a une phrase qui revient dans chaque texte. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Elle vit qu'il était beau. Je me suis la question. Et s'il était laid? Elle l'aurait jeté. Ça m'a frappé. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? Il est laid, on le jette. Nous pourrions un peu nous arrêter sur la beauté, la laideur. Où est la séparation? Dans la région où je suis né, le Borinage, il y a un dicton qui dit « Et un enfant de clapot, Pusmam et del Pubio. Je pense que vous avez compris. Traduction, un enfant de crapaud pour sa maman est toujours le plus beau. Pas très joli, un crapaud, apparemment. Pourtant, il y a des beaux et des laids, apparemment. J'en ai parlé avec un frère qui m'a dit, oh, mon bébé est laid, j'ai pas trouvé le beau. Enfin bref, continuons. Mais comment le sont-ils? Comment est-ce qu'ils sont laids ou est-ce qu'ils sont beaux? Sérieusement. Je pose la question, moi je me suis posé la question, dit, comment est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est beau, quelqu'un est laid? Ben, on n'en sait rien. On ne sait pas d'où ça vient. Nous ne savons pas comment notre cerveau estime qu'un tel est beau et qu'un autre est laid. Et c'est valable pour tout. Pour tout. Oh, quelle belle robe! Ben non, j'aime pas ça. Oh, quelle laide maison! Ben oh, c'est la mienne. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Comment est-ce qu'on juge qu'une personne est belle ou moche? Nous sommes créés à l'image de Dieu. Pourtant, nous avons plusieurs exemples dans la Bible où l'on nous parle de la beauté de personne. Et je vous cite quelques exemples dans Genèse 39, 6. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. 1 Samuel 9, 2, il y avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Encore dans Samuel 16, verset 2. Or, David était blond avec de beaux yeux et une belle figure. Dans un roi, Adonijah était en outre très beau de figure. Genèse 29, 17, Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Sans oublier Sarah, Rebecca, Esther, les filles de Jacob. Tous nos exemples, ce sont de belles personnes. Mais vous allez me dire, ce sont des adultes, ou entre autres des jeunes adultes. Dans notre cas, de Moïse, enfin, qui ne porte pas encore le nom de Moïse, c'est un bébé que sa maman aime comme il est, je suppose. Sa maman aime tous leurs enfants. Il est un fait que de dire beau ou laid passe par notre regard. Et le plus bel exemple, c'est Ève. Ève devant le fruit défendu qui entraînera l'humanité vers la mort. Genèse 3, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Agréable, il est beau. Et qui lui a dit que le fruit était beau? Je vous laisse réfléchir. Comment sait-elle que ce fruit est beau? Notre jugement passe par notre regard. Si nous sommes déformés, notre regard le sera aussi. Jusque-là, Ève est dans un état de pureté. Et le fruit est beau. Il ne deviendra laid que parce que Dieu l'a désigné comme conduisant à la mort et qu'il a été consommé par l'homme. Il est devenu le fruit défendu. Dans notre cas, de notre bébé pur, il est désigné beau par les yeux de sa mère. Mais, si vous avez remarqué, c'est le discours d'Étienne qui va nous donner le détail qui nous manque pour vraiment voir la beauté du nouveau-né. Acte 7, 20. À cette époque, naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Il était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Il était beau aux yeux de Dieu, voir comme Dieu voit. Voir comme Dieu voit. Il y a plusieurs reprises dans la Bible, il nous a montré que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais au cœur. Le petit Moïse était déjà connu de l'Éternel, même avant sa conception. Et, comme nous tous d'ailleurs. Et je vous rappelle le psaume 139, verset 13. 139, verset 13, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon âme, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui allaient m'être destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Tes yeux me voyaient. Mais revenons à notre petit Moïse, ou plutôt à sa maman. Elle ne peut le cacher plus longtemps que 3 mois. Et le verset 3 nous dit, « Alors elle décide de confier au Dieu au fleuve, au Dieu qui donne la vie en Égypte et qui, entre les mains du Pharaon, donne la mort. Elle confie son enfant au fleuve Nil. Mais avant ça, elle va lui faire une sorte de bateau. Et ce moment m'a fait un peu penser à l'arche de Noé. L'arche de Noé qui flotte sur les eaux mortelles et qui sauve toute une famille qui fait totale confiance à Yahvé, le Dieu unique. Souvenons-nous que c'est Dieu qui a donné les plans de l'arche à Noé. Et si nous sommes dans sa volonté et dans ses plans, certes, nous aurons des épreuves, des tempêtes, des soucis, nous frôlerons peut-être la mort. Mais jamais il ne nous abandonnera. Ça nous a été rappelé dans l'intro. Dieu est toujours là. Il ne nous abandonne pas. Et voilà notre petite embarcation au milieu des roseaux avec à son bord notre beau bébé. Que va-t-il lui advenir? Que va-t-il lui advenir? Et c'est ici qu'entre en jeu notre verset de l'Épître aux Hébreux. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Caché par ses parents. J'étais étonné. Caché par ses parents. Le texte original, j'ai été vérifié dans le texte grec, dit bien « ses parents ». Nous entendons « papa-maman ». Le papa, selon notre texte, a pris pour femme une fille qui devint enceinte. C'est tout. On ne parle pas de sa foi. La maman enfante un fils qu'elle cache 3 mois et puis le confie au gré du fleuve. Plus rien. Où est sa foi? Et puis une troisième parente apparaît aussi. C'est la sœur qui se tient à distance pour voir ce qui arriverait. Est-ce vraiment une attitude de foi? Pourtant le texte nous dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois. Nous avons ici 3 attitudes de foi différentes. Le père, la mère, la sœur. Celle du père. Une foi sans bruit et invisible. Discrète, sans signe extérieur, puisque l'auteur du texte de l'Exode ne rapporte rien le concernant. Celle de la mère, une foi agissante, puisqu'elle construit ce panier flottant dans lequel elle placera ce qu'elle a de plus cher, son fils. Et puis plus rien. Et puis la foi de la sœur, une foi curieuse qui observe ce qui va devenir et voir ce que Dieu va faire. Peut-on dire que l'une des fois est mieux ou moins bien? Je ne crois pas, pas du tout. Nous sommes tous différents et nos tempéraments, nos âges, nos vécus, nos enseignements peuvent nous faire agir différemment les uns les autres sans pour cela manquer de foi. Nous pourrions peut-être parfois les juger différemment sur leur attitude différente. « Oh le père, t'as du missionnaire, complètement dans l'ombre, laissant tout le travail à sa femme. » La mère qui manque quand même de confiance en ne gardant pas son bébé près d'elle. Ou la sœur qui a tellement de doutes qu'elle surveille ce que Dieu va faire. Nous n'avons pas à juger qui que ce soit sur les faits et gestes extérieurs qui pourraient nous faire penser, ne fût-ce que penser, à un manque de foi caractérisé. Souvenons-nous que, comme pour la beauté, Dieu regarde au cœur et qu'il nous utilisera selon notre foi. Pas le regard des autres, le regard de Dieu. Personne ne peut mesurer la foi dans le silence du Père, ni dans la fabrication de la petite arche, ou encore moins dans l'observation douteuse de la sœur. Personne. Pourtant, les effets sont immédiats. Il n'est pas écrit que le petit Moïse attendra longtemps pour être adopté. Et par la même occasion, évitera le sort tragique qui lui est réservé par le Pharaon. Il fait que pleurer. Il n'a pas entendu de journée. La réponse de Dieu à la foi des parents sera aussi un coup d'humour. Parce que quand on lit bien le texte, c'est la propre fille du commanditaire des meurtres, en l'occurrence Pharaon, qui ira se baigner dans la source de la mort, en l'occurrence le Nil, qui va sauver des eaux, celui qui deviendra le sauveur du peuple d'Israël, en l'occurrence Moïse, qui provoquera la désolation en Égypte 80 ans plus tard. Longue phrase que j'ai dû lire parce que c'est tout ça. Et puis c'est la propre fille du Pharaon qui va apercevoir l'arche de Moïse et quand elle découvre à l'intérieur le beau petit bébé, elle en a pitié, bien qu'elle sache que c'est pertinemment bien un fils d'Hébreu, c'est elle qui le dit. C'est un Hébreu. Et là, la foi observatrice de la sœur va entrer en jeu et par ses paroles va rejoindre la foi de la mère active pour que le petit soit nourri et élevé par ses propres parents. Relisez le texte. Parfois, ce n'est pas facile à comprendre, à suivre, peut-être pas facile à me comprendre. Et en plus, une cerise sur le gâteau, la désobéissance de la fille du Pharaon, parce qu'elle désobéit à son père, il faut tuer, non, va aller jusqu'à payer un salaire pour faire grandir Moïse. Elle va payer le petit pour qu'il grandisse. Ce sera quand même le futur leader du peuple de Dieu qui va sortir le peuple d'Égypte et provoquer une catastrophe quand même. Et oui, ici on voit l'œuvre de Dieu financée par le monde païen. Et oui, c'est païen-là, l'Égypte, qui va payer l'œuvre de Dieu. Dans notre partage, deux choses importantes sont sorties. Vous avez remarqué, la beauté et la foi. Toutes deux dans la main de Dieu et dans sa vision. Et pour terminer, nous nous souvenons quand même que dans quelques semaines, nous fêterons Pâques, mort et résurrection de Jésus, le Fils de Dieu et exemple parfait. Et on peut se poser la question, quelle est sa beauté et quelle est sa foi? Juste un verset dans Ésaïe 53, verset 2, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Cette prophétie est généralement attribuée à Jésus, mais dans le Nouveau Testament, rien. Rien ne nous décrit Jésus beau ou pas. Mais voilà ce qu'il dit de lui-même quand il est venu sur la terre dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Je suis doux et humble de cœur. La beauté de Jésus est intérieure. Et comme le petit Moïse décrit dans les Actes, il était beau aux yeux de Dieu. Quant à la foi de Jésus, il nous suffit de le retrouver simplement dans le jardin de Gethsémané et juste d'écouter sa prière pour comprendre qu'il avait pleinement confiance en son Père. Que ta volonté soit faite et non la mienne. En conclusion, beauté et foi peuvent aller de pair si toutes les deux viennent du cœur et selon le regard de Dieu. Il s'ensuivra la bénédiction comme l'avaient vécu les parents du bébé qui ne s'appelait pas encore Moïse, mais qui deviendra aussi un homme de foi. Oh, avec ses défauts et ses qualités. Et c'est lui aussi qui sera l'auteur du livre de l'Exode. Alors, pour nos enfants, pour nous, soyons des pères, des mères, des sœurs, des frères de foi, quelle que soit la forme exprimée, foi discrète, foi agissante, foi curieuse, peu importe, tant qu'elle porte le label de la beauté de Dieu, notre Père. Amen. Seigneur, encore une fois, nous voulons regarder à toi, ne regarder qu'à toi, parce que parfois tout ce qui nous entoure n'est pas très beau, mais nous voulons regarder selon tes yeux, selon les yeux de ton Fils sur la croix. Merci parce que tu nous as regardés même avant que nous soyons nés. Seigneur, aide-nous à voir comme toi, tu vois. Et tout cela pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.